Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre.
Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun.
Avec en cadeau un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Une fois n'est pas coutume, Franck n'est pas à mes côtés en studio à Europe 1. Il poursuit ses pérégrinations pour vous offrir des émissions exceptionnelles. Il se trouve aujourd'hui dans le quartier du Jardin des Plantes, situé dans le 5e arrondissement de la capitale, au cœur d'un site magnifique, la Grande Mosquée de Paris. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Depuis plus de 90 ans maintenant, les Parisiens en général et plus particulièrement les habitants du quartier du Jardin des Plantes, on est là pas très loin de la gare d'Austerlitz, se sont habitués à son minaret crénelé qui du haut de ses 33 mètres domine la petite place du Puy de l'Ermite. Il est inspiré, ce minaret, assez directement de celui de la mosquée Zitouna en Tunisie. Mais sitôt franchi le porche, comme je viens de le faire à l'instant, c'est un ensemble hispano-mauresque assez composite. Vous allez voir, j'allais dire, en tout cas vous allez l'entendre, mais un ensemble très harmonieux qui vous emporte d'un coup de l'autre côté de la Méditerranée. Ce patio magnifique, ces arcades blanches, toutes ces mosaïques dont nous allons reparler bien sûr, tout ça est inspiré plus directement peut-être du Maroc et spécialement de la grande mosquée de Fès, la mosquée Al-Karouine. Je ne sais pas très bien prononcer ça. Beaucoup de Parisiens ou de touristes de passage connaissent évidemment le restaurant de la mosquée où l'on sert de fabuleux couscous et des tagines de rêve. Les plus habitués fréquentent le très beau hammam, mais plus rares sans doute sont ceux qui entrent à l'Institut musulman de Paris et dans l'espace religieux de ce vaste monument. Eh bien, c'est ce que je viens de faire pour ma part et j'y suis accueilli par le recteur de la grande mosquée, le docteur Dalil Boubaker, que nos auditeurs connaissent bien évidemment puisqu'il est une personnalité éminente de l'islam de France et qu'il a présidé pendant 5 ans, le Conseil français du culte musulman. Bonjour, monsieur le recteur.
Bonjour à vous, mon cher Franck Ferrand. Merci. Bonjour à vos auditeurs.
Merci de nous accueillir dans ce lieu magnifique. Alors, on peut dire que ce que nous avons ici sous les yeux, c'est un fragment de, en plein Paris, comme ça, c'est un voyage immobile, c'est un fragment de la civilisation arabo-musulmane.
Absolument, mon regretté père qui avait dirigé la mosquée de Paris de 57 à 82,
Si Hamza Boubaker
avait défini l'institut comme un joyau de toute la structure de Paris, où ce joyau égaré, n'est-ce pas, se veut représentatif d'une culture, d'une civilisation, d'un art et en même temps d'une religion. Donc la mission est complexe, elle est multiple, d'où la multiplicité des facettes de la mosquée de Paris.
Alors ce qu'il faut dire d'emblée, parce que je pense que c'est une dimension très importante de ce haut lieu, c'est qu'au moment de son inauguration, on est en juillet 1926, c'est le président Gaston Doumergue, notre Gastounet national, qui vient inaugurer cette grande mosquée.
En effet.
D'emblée, on est dans le symbole, il s'agit de rendre hommage à ceux qui ont versé leur sang pour la France.
Absolument, on peut dire que la décision de construire une mosquée à Paris remonte au lendemain de la bataille de Verdun, au lendemain de 1916, donc en 1917, que la société des Abous chargée de construire la mosquée de Paris a été mise en place et déclarée à la Mahakma d'Alger, c'est-à-dire au tribunal musulman d'Alger.
Alors, je vous propose, docteur, d'avancer un peu dans le premier patio de cette grande mosquée. Un magnifique ensemble, entièrement couvert de céramique. On avance au milieu d'un jardin. Vous me disiez, juste avant que ne commence l'émission, que ces cyprès ne sont pas forcément bien vus dans la culture arabe.
Oui, ça a été un retour aux sources. Vous savez que de nombreux jardiniers de France ont été se former et s'informer sur les jardins de l'Andalousie, c'est-à-dire de ce qui existe au Maroc. Et on a très scrupuleusement analysé la végétation de ces palais musulmans andalous et on a trouvé peut-être ce reste de la civilisation andalouse en Europe, où le cyprès avait une très grande importance. Et au-delà, ce sont des massifs, ce sont des bassins, ce sont des vasques, ce sont des jets d'eau, l'eau court partout, comme à l'Alhambra, comme dans tous les palais.
Alors cette grande mosquée de Paris peut être considérée comme la mosquée mère de toutes les mosquées de France, on peut dire ça?
Absolument. Elle a été, comme vous le savez, inaugurée avec un faste extraordinaire.
J'ai justement entre les mains le livret qui a été imprimé à l'occasion de l'inauguration de la Grande Mosquée. Et lorsqu'on lit la liste des membres du comité d'honneur, c'est tout simplement ce que la République française de l'époque pouvait compter de plus prestigieux. Il y a évidemment le maréchal Lyautey, Gabriel Hanotaux, tout le monde est là, si
Absolument,
je puis dire.
Absolument, ça a été un élan unique dans l'histoire de l'islam et de la France, et de la France et avec l'islam, un élan affectif, un élan fondateur d'une très grande amitié, d'une très grande, je dirais, symbiose, d'une très grande espérance, d'un très grand espoir de voir la France, qui à l'époque était une puissance musulmane, ne l'oublions pas, avec
sûr,
l'ensemble de l'Afrique,
de l'Empire colonial,
de l'Empire colonial, en Orient également. Et donc la France voulait être fière de sa mosquée et les musulmans étaient fiers d'avoir servi la France et d'avoir été, je dirais, les récipiendaires d'un monument et d'un symbole aussi prestigieux.
Et ils ont montré cette reconnaissance au cours de la Seconde Guerre mondiale, car ça, il faut dire que ce lieu où nous sommes, cette grande mosquée de Paris, a été un lieu de résistance très important.
Bien sûr, vous savez que la mosquée de Paris est bâtie sur des caves, et ces caves sont bien entendu liées à la structure du coin ici, c'est la Bièvre qui coule sous nos pieds.
Eh oui.
Et c'est devenu un égout de Paris, donc un des égouts de Paris, d'où la possibilité de franchir les caves de la mosquée vers la Bièvre et s'échapper, bien entendu, était une aubaine pour les résistants et tous ceux qui ont dû souffrir de l'occupation nazie de Paris.
Puisque nous parlons de topographie, il faut savoir que cette mosquée, initialement, devait être encore plus vaste que le grand monument que nous avons là sous les yeux.
Absolument. C'est un lieu historique, d'ailleurs, depuis le Moyen-Âge. C'était une espèce de cour des miracles. Ensuite, ça a été un hôpital dit de la pitié. Après l'hôpital, ça a été une prison. La prison de Sainte-Pélagie, de triste mémoire pour les personnalités qui ont eu à séjourner. Et de Sainte-Pélagie, l'ensemble est tombé en désuétude et la mairie a fini par donner ce terrain pour la construction de la mosquée de Paris.
Alors, ce monument, nous allons, si vous le voulez bien, le visiter en compagnie de Malek Chebel. Et nous vous retrouvons, docteur, dans un instant pour parler d'orientalisme et de ces liens très subtils et très profonds qui, depuis longtemps, se sont tissés entre la France et l'islam.
Alors, si je pouvais simplement apporter une précision.
Mais je vous en prie.
Vous avez parlé de la mosaïque. Effectivement, la mosaïque est ce qui frappe le plus les visiteurs, la mosaïque. Mais ce n'est pas de la mosaïque.
Ah, pardon.
Voilà, je tiens à préciser, là nous avons affaire à un zellij, qui en arabe veut dire ce qui brille, pièce de faïence, si vous voulez, qui brille, mais préformée. Elles ont une structure très particulière, ça vaut toute une émission.
Merci beaucoup de cette précision, monsieur le recteur, qui en même temps vaut transition.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Nous poursuivons sur Europe 1 notre émission spéciale. Franck, je vous le rappelle, vous propose de faire la visite de la Grande Mosquée de Paris avec des invités de renom spécialistes du monde arabe.
Malek Chebel, vous êtes anthropologue, vous êtes spécialiste de cette civilisation arabo-musulmane, vous êtes le traducteur du Coran également, hein, traducteur en français. Après cette transition que nous a offerte le recteur Boubacar à propos des faïences qui ornent l'ensemble des balambris, si je puis dire, du bas des murs de cette grande mosquée, il faut que nous disions un mot de tous les artistes qui, dans une sorte de ferveur incroyable, ont travaillé dans les années 1920 à cette réalisation architecturale.
À cette belle réalisation architecturale d'inspiration marocaine.
Essentiellement marocaine.
Essentiellement marocaine, en sachant que le Maroc lui-même est héritier d'une tradition encore plus ancienne, c'est la tradition arabo-andalouse.
C'est ça.
Donc tout ce que vous voyez là, c'est la transposition à quelques siècles en arrière, si je puis dire.
C'est pour ça que ce côté grenade dont on parlait tout
Absolument.
À l'heure.
Absolument. Voilà. C'est toute la disposition à la fois du jardin et des bâtiments du culte sont conçus en fonction des mosquées marocaines à Marrakech, Fès, Meknès, mais aussi Séville, Cordoue. Mmh. Et donc, quelque part, y a pas, l'Alhambra n'est pas encore là, parce que ce n'est pas encore une couleur rouge. Mais enfin, on peut imaginer
qu'il y a cette ambiance-là.
Il y a cette ambiance cossue, ambiance enveloppante, ambiance intériorisée, fondée sur une sorte de sacralité à l'intérieur, étant donné que la salle de prière est juste à côté. Donc, on peut dire que nous sommes les héritiers, direct ou indirect, de la grande tradition arabo-andalouse.
Alors, tout à l'heure, j'ai donc franchi le porche de l'Institut musulman. Nous sommes entrés avec le recteur dans ce premier jardin. Il est d'un mètre, à peu près un mètre en dessous du niveau de l'ensemble de la coursive, qui elle-même est entièrement décorée de rinceaux, de frises, de lambrequins extrêmement... ce sont des entrelacs mauresques, comme on dit en France.
Absolument.
Tout à fait raffinés. Qui a sculpté, qui a conçu tout cela?
Ce sont des artisans marocains spécialement affrétés pour ça. Mmh. Et on est allé les chercher chez eux pour faire ce travail.
Ils ont travaillé donc ici, à Paris?
Absolument. Une partie a été achevée ici. La préparation a été faite en partie
là-bas,
au Maroc.
Mmh.
Et le montage a été fait ici. Aussi bien la marqueterie que les frises. Et vous voyez, les fontaines, par exemple, vous voyez, c'est tout à fait significatif. La fontaine est typiquement marocaine. Ça peut être un riad marocain.
Là. Oui, là, on a l'impression
on imagine bien que là, c'est un riad.
Ah, oui.
Donc, ça, c'est la fontaine. Et donc, vous verrez, juste au-dessus de la fontaine, Bismillahirrahmanirrahim, et des sourates du Coran. Soit des sourates, ici, c'est du Coran à coup sûr. Mm-hmm. Dans d'autres palais marocains et hispaniques, c'est en hommage au souverain. Vous savez, nous sommes dans un système dynastique. Hein? Et là, souvent, c'est un rappel au souverain, un hommage au souverain en poste.
Alors là, ces hommages royaux ont été remplacés par des
frises coraniques.
Alors autour de ce premier jardin, il y a une bibliothèque magnifique. Du reste, il y a une grande salle de conférence dans laquelle nous allons rejoindre le recteur dans un instant. Et puis, à l'opposé, on monte quelques marches. Il y a trois volées de marches, évidemment, avant d'accéder à un patio qui lui-même donne sur la salle de prière.
Absolument. Le patio est très important parce que ici, le concepteur et l'architecte a envisagé l'idée que nous puissions avoir une salle des ablutions. La salle des ablutions est attenante parce qu'on a considéré que dans un esprit quasiment laïque, que véritablement la beauté, l'architecture, la construction ne doit pas être, je vais dire, entravée par une salle des ablutions visible.
Ah, c'est ça.
Et donc on fait une transposition. La fontaine est toujours la transposition d'une salle d'ablution invisible qui... En l'occurrence, ici, à la mosquée de Paris, est cachée.
D'accord.
Et là, elle est dans le sous-sol, en fait.
Souterraine.
Et nous avons donc ici la fontaine centrale, parce que toutes les places 7 ont une fontaine centrale qui symbolise le jaillissement de la vie et la pérennité de cette vie. C'est-à-dire qu'ici, on devrait avoir une fontaine qui fonctionne, si je puis dire, dans le concept musulman.
En ce moment, on est en train d'effectuer ici des travaux pour couvrir ce patio, en fait.
Oui, alors ce serait le couvrir de manière amovible.
Amovible,
oui,
bien sûr.
Parce que ce serait vraiment un massacre, je dirais, architectural de l'estomper complètement. Il faut savoir que durant les journées de fête, c'est plein de monde.
Bien sûr.
Partout, il y a des...
Et c'est la raison pour laquelle il faut installer cette structure qui sera tout à fait provisoire, enfin amovible, mais dont le but est d'agrandir finalement l'espace de prière.
Hein. Oui. Ici, plein de monde, parce qu'à l'intérieur, il y a la salle prière. Et la salle de prière, il y a un endroit très stratégique qui est la Qibla, ce qu'on appelle la Qibla, l'orientation de la Mecque.
Nous traversons donc ce patio avec cette fontaine rituelle dont vous nous parliez, qui est elle-même décorée toujours de ces somptueuses faïences. Je fais très attention aux termes que j'emploie.
Non, mais
j'ai dit mosaïque tout à l'heure et c'était une erreur.
Non, mais c'est très juste. La mosaïque aussi. La mosaïque, elle est d'origine orientale. En sachant que la fontaine symbolise donc évidemment la vie, parce que dans le Coran... Tout ce qui est fontaine, eau jaillissante, etc., symbolise le paradis. C'est qu'à terme, au-delà de la vie, c'est aussi le paradis. Nous sommes dans l'au-delà, d'une manière symbolique.
En avestique, paradiso, c'est le jardin, après tout.
Et ben, ça vient du grec au départ, après en passant par le persan,
c'est ça.
Pour arriver à Firdaus, qui est l'un des noms du paradis en persan.
Il y a des personnes qui sont en train de prier. Nous n'entrons pas, nous sommes devant simplement la
On peut arriver jusqu'au
prière,
seuil.
Au seuil, voilà.
Mais au-delà, c'est l'espace strictement sacré. Donc cela suppose que nous soyons déchaussés, que nous ayons fait des ablutions et que nous nous mettons dans l'idée que nous allons prier Allah. Ça appartient à Dieu. Et tous, nous devons, moi qui ai traduit le Coran, je suis obligé de me déchausser et de faire mes ablutions pour entrer dans la salle. Donc ce n'est pas une discrimination vis-à-vis de, ni de l'origine, ni du sexe, ni de la personne. Mais c'est un lien sacré qui requiert des règles, c'est tout.
Toujours la même inspiration marocaine dans cette grande salle de prière.
Alors, ici nous avons la transposition de plusieurs mosquées. On a déjà une inspiration, évidemment, les colonnades, comme vous voyez, c'est Sinan qui les a imposées à Istanbul. Et depuis Sinan, qui est le grand architecte de pratiquement toutes les mosquées d'Istanbul et de Turquie, et de l'Empire ottoman, hein, parce qu'il est allé même à la Mecque, parce que la réhabilitation de la Mecque, donc, en son temps, c'était lui qui l'avait faite. Depuis, on a introduit donc à la fois l'architecture intérieure, l'orientation de la Qibla, parce qu'il y a eu des calculs astronomiques très poussés ici à Paris, pour déterminer exactement l'orientation de la Qibla.
Bien sûr.
Il y a eu, tous les savants du moment ont été convoqués ici par les autorités françaises. Hein. C'était quelque chose de politique, pratiquement. Et donc, l'espace, malheureusement, est un peu restreint à mes yeux. Enfin, il fallait... Alors, évidemment, tout est marocain. Et hispano-marocain.
Je ne peux pas dire
marocain, parce que c'est l'influence vraiment de l'Espagne et du Maroc, avec, évidemment, l'importance du lampadaire central, qui est le jaillissement de la lumière, qui est par là, en réalité, la communication avec Dieu se fait par là. Et avec la Mecque, c'est le mihrab, c'est l'endroit où se met l'imam. L'imam, le mot imam veut dire seulement celui qui se tient devant les croyants. C'est être devant les autres, c'est imam. Il se tient devant les croyants, non pas parce qu'il est supérieur à eux, mais parce qu'il faut orienter et il faut focaliser, médiatiser, capter l'influx, enfin, le médium qui est l'orientation à la Qibla. Et donc, il se met là dans un mihrab, ce qu'on appelle un mihrab. Mm-hmm. Vous avez un endroit où l'imam, enfin celui qui s'occupe de le prédicateur, monte quelques marches en bois pour faire le prêche du vendredi.
Alors, tout ce que nous disons là et ce que nous visitons, nos auditeurs sont maintenant habitués à nos déplacements dans de hauts lieux, sera visible dès cet après-midi sur le site internet d'Europe 1, www.europe1.fr. Nous nous retrouvons dans un instant en compagnie du recteur Boubaker pour parler d'orientalisme et pour parler de liens entre les civilisations.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Sur Europe 1 du double quatuor en fa de Mozart l'Égyptien qui marie la musique de Mozart aux rythmes orientaux avec l'aide de Nasreddine Dalil. D'ailleurs, comme Don Giovanni revient à l'Opéra Bastille, ce sera le jeudi 15 pour une représentation exceptionnelle. Franck profitera de l'occasion pour revenir demain sur Mozart, ce grand compositeur. Il s'intéressera notamment à la racine de Mozart aux femmes. Mais revenons à notre sujet du jour. Il s'agit de la découverte de la Grande Mosquée de Paris, Franck.
Nous nous retrouvons donc un peu au chaud dans la grande salle d'honneur de cette grande mosquée de Paris en votre compagnie, docteur Dalil Boubaker, vous êtes le recteur de cette grande mosquée, et avec Malek Chebel qui nous a fait donc visiter l'essentiel des lieux. On s'est promené en sa compagnie à l'instant. Alors que peut-on dire de la décoration très somptueuse de cette salle ?
C'est une salle extrêmement historique, symbolique. Son architecture représente les grandes salles des palais de l'Alhambra, le style hispano-mauresque, quadrangulaire, avec cette excavation, n'est-ce pas, pour les personnalités marquantes. Vous voyez la décoration la plus typique de l'art musulman. Nous avons le zélite ou mosaïque, si vous voulez bien, mais nous avons aussi l'art des dorures sur les tissus, nous avons les arabesques, nous avons la calligraphie aussi, qui est un art extrêmement important de l'islam, et les structures sur bois. Concernant la calligraphie, vous avez ici nommément les... avec le nom du prophète de l'islam, Mohammed, qui est tout à fait un acte de foi du credo, de la profession de foi de l'islam. Nous avons les quatre califes, Ali, nous avons Omar, nous avons Abbas et Othman.
Je crois pouvoir révéler aux auditeurs, cher docteur, que nous nous connaissons depuis longtemps et j'ai eu l'occasion depuis des années de vous suivre dans un certain nombre de vos déplacements, des conférences que vous donnez, et j'ai pu voir à quel point vous étiez l'un de ceux qui sont aujourd'hui capables de faire comprendre à quel point les liens entre la culture et la société française et l'islam sont des liens très anciens, très respectueux, très profonds. Du côté français, il y a des savants, des penseurs qui, dans les temps modernes, se sont tôt intéressés à l'islam.
Très, très, très tôt. Prenons la date symbolique de Pavie. Pavie a été la défaite de François Ier devant Charles Quint. L'idée de François Ier était d'envoyer son anneau royal à Soliman le Magnifique par une délégation qui comprenait le fils de François Ier et qui a été demandé l'aide turque pour, désinsérer la France de l'étranglement que Charles Quint faisait peser par l'Espagne et l'Autriche. Et l'accord de Soliman le Magnifique, puisqu'il faut le nommer, a abouti naturellement à un traité d'échange, une charte. Cette charte a d'abord été précédée d'un accord entre l'islam et la France, particulièrement, puisque ces traités remontent dans les années 1530, où la France a été, alors là c'est historique, décrétée pays d'alliance, dar al-ahd, pays du contrat, pays de l'amitié.
Mais ensuite, au XVIIe, au XVIIIe siècle, avec la traduction des Mille et une Nuits...
Qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui, celui qui a mis en place le collège, non pas de France, il n'existait pas, c'était le collège royal, et où il a installé quatre enseignements, l'hébreu, le turc, l'arabe et le persan. Et nous avons de grands orientalistes, notamment Herbelot, Durier et bien d'autres qui se sont mis à traduire les œuvres arabes. C'est là que débute un orientalisme français qui a été quelque chose de très important dans la connaissance de la poésie, de la religion. La première traduction du Coran a eu lieu à ce moment-là. Et le XVIIIe siècle a été également une période de connaissance, mais il a fallu attendre les grands orientalistes de la Révolution française.
Et puis l'expédition de Bonaparte en Égypte.
Cette expédition avec Volney et surtout
Sylvestre de Sassy.
Un très grand arabophone, un très grand connaisseur de l'islam. Imaginez, il se présente devant les gens du Caire, l'Azhar, il leur parle en arabe, il leur cite des versets du Coran. Ah, le bruit a couru que Napoléon Bonaparte s'était converti puisqu'il connaissait le Coran.
Malek Chebel, avec l'expansion coloniale et les protectorats, il y a eu par ailleurs un véritable échange universitaire avec ce monde arabo-musulman qui s'est mis en place pendant tout le 19e et au début du 20e siècle.
Tout à fait. Alors je rajouterai au nom que Dali Boubacar a cité, pour le 20e siècle en termes d'orientaliste, on a quand même eu un grand orientaliste, Louis Massignon, qui a fait vraiment connaître l'islam en quelque sorte aux chrétiens directement.
Bien sûr.
On a eu Jacques Berck et Augustin Berck juste avant lui. On a eu Vincent Monteil, qui fut d'ailleurs mon professeur, et un certain nombre de penseurs de cet acabit-là qui ont permis finalement de désacraliser en quelque sorte à la fois l'éloignement, un peu le côté un peu archaïque, le côté un peu désorienté, pas structuré, on va dire, de l'Orient, en montrant les structures fondatrices derrière l'apparence, et donc c'est extraordinaire. Alors, les mille et une, je reviendrai sur les mille et une qui ont joué un rôle capital, un rôle capital. Galland, 18e siècle, évidemment.
Et Galland, donc le traducteur.
Le traducteur.
Les Mille et Une Nuits au tout début du 18e.
Antoine Galland, tout début de 1704-1717. Les Mille et Une Nuits ont été traduites durant cette période-là. Et ça a rendu l'Orient extrêmement sympathique. C'est la première fois qu'un auteur traduit des Mille et Une Nuits, les contes orientaux, dans une langue autre que la leur. Et c'est du français que les Anglais, les Allemands, les Espagnols, les Italiens ont traduit les Mille et Une Nuits, en partant de la traduction française. Donc c'est dire que les rapports sont très étroits, très intimes, très sensuels. Et moi je suis très attaché à cet aspect sensuel des choses, parce que je trouve qu'on parle mieux aux gens en leur parlant de tendresse, d'amour, de beauté, de femme. Et donc toutes ces idées de l'Orient magnifique, l'Orient fantastique, les génies, les fées, les princesses, les tapis volants, tout ce que vous avez avec Ali Baba, les 40 voleurs, tous ces gens-là. Et au fond, nous sommes les héritiers de cette tradition-là, littéraire, scientifique, intellectuel, de penseur, de médiateur. Et je regrette d'ailleurs même aujourd'hui qu'en France, on n'est pas... on a perdu la hauteur de ces grands penseurs français qui apprenaient l'arabe, qui apprenaient le turc, qui apprenaient le
Moi, je me rappelle certains colloques qui se tenaient à Tunis il y a encore 30 ans, où l'on avait, enfin pas 30 ans, 25 ans, où l'on avait effectivement un débat intellectuel de très haut niveau. On a tendance à perdre un peu en ce moment, sans doute.
Les anglo-saxons ont pris le pas largement sur nous.
Ça a été une telle popularité en Europe, n'est-ce pas, que ce qui nous touche beaucoup, nous musulmans, c'est que l'influence de la littérature arabe, de la poésie arabe, ont influencé le romantisme européen et Lamartine, Victor Hugo, Goethe en Allemagne,
évidemment.
Et Goethe avec son divan d'Est et d'Orient et d'Occident, ont apporté un renouveau même de l'expression affective, sentimentale, littéraire, qui d'un 18e siècle était un peu desséchant avec son rationalisme un peu trop rigide. Mais Voltaire a tout de même fait une pièce qui s'appelait Mahomet.
Le parfum de rose et de cannelle est venu balayer tout ça.
Et donc le romantisme a une double influence. Il a influencé donc l'Europe dans ce sentimentalisme très oriental, mais aussi les musulmans qui sont jusqu'à aujourd'hui très attachés à cette littérature. Tous les musulmans connaissent les romantiques français. Ça, il n'y a aucun problème.
Ça, c'est l'aspect culturel qui est bien sûr très présent et prégnant ici dans cette grande mosquée de Paris. Mais il y a aussi un aspect religieux auquel nous venons dans un instant.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Depuis plus de 90 ans, c'est un ensemble hispano-mauresque de la capitale qui nous transporte de l'autre côté de la Méditerranée. Vous l'avez compris, Franck nous fait aujourd'hui sur Europe 1 la visite de la Grande Mosquée de Paris.
Nous sommes toujours, Julia, ici dans la grande salle d'honneur de la Grande Mosquée de Paris, en compagnie bien sûr du docteur Dalil Boubaker, qui est le recteur de la Grande Mosquée, et nous a rejoint Maître Shemseddine Hafiz, qui est avocat et qui se trouve être le vice-président du Conseil français du culte musulman. Alors, Maître Hafiz, vous êtes l'incarnation, en quelque sorte, à travers cette Grande Mosquée, d'un certain islam. Est-ce qu'on peut parler d'un islam de France ?
Alors, pour moi, islam de France, islam en France, c'est plutôt un slogan politique. L'islam, c'est d'abord une religion universelle. Ici, en France, et vous avez commencé par ma qualité professionnelle, je suis avocat. Le recteur Boubaker, qui est mon ami, est médecin. Et puis par la suite, nous pouvons parler de nos convictions religieuses. Je ne pense pas qu'on parle du catholicisme de France, du judaïsme de France, du protestantisme de France. Et à mon avis, sur un plan politique, on peut peut-être aborder ces sujets parce que l'islam, malheureusement, correspond souvent à la notion d'immigration. Alors que tout à l'heure, le recteur Boubaker expliquait la place de l'islam dans l'histoire de la France. Et à mon avis, cette mosquée est l'incarnation même de cet islam qui fait partie depuis toujours du paysage français. Alors moi, avant tout, je me définis comme un citoyen français. Ma conviction religieuse, c'est vraiment quelque chose à la fois dans la sphère privée et en même temps, puisque je suis là, bien évidemment, j'affirme mon appartenance à une foi que je partage et que j'essaye très modestement à mon niveau de montrer à mes concitoyens ce qu'est l'islam.
Il y a ici, dans cette grande mosquée, non seulement tout un décor, mais également tout un passé. Nous avons évoqué à grands traits, certes, l'histoire de ce haut lieu. Nous avons expliqué l'hommage de la République française aux combattants musulmans au moment de la création même, au tout début des années 1920. Est-ce qu'on peut parler plus tard, je parle là d'une époque qui est déjà la fin de la 4e et le début de la 5e République, est-ce qu'on peut parler de la Grande Mosquée comme le creuset d'une certaine conception de la religion, tout à fait en rapport et en harmonie avec la laïcité, docteur Boubaker?
Bien sûr que les musulmans ont dû adapter leur mode de conception. La France est un pays laïque. La France est un pays démocratique, est un pays moderne. Donc les défis qui se sont posés ont été d'abord celui de la laïcité. Comprendre que la religion n'englobe pas tout, qu'elle se... comme l'a dit Maître Hafiz, c'est la sphère privée, c'est la foi, c'est l'adhésion à des principes théologiques, à une doctrine, à une loi, à une communauté, peut-être aussi. Les autres aspects qui ont fait que les religions en France ont un statut particulier, c'est-à-dire lié à la loi de 1905 qui fait qu'il y a une séparation entre l'État et les cultes, les musulmans le vivent honnêtement et je dirais loyalement, cette division entre le problème de domaine public et le domaine privé qu'est l'islam.
Chemseddine Hafiz, on a beaucoup évoqué au cours de cette émission le symbole que représentait cette grande mosquée de Paris et son rapport à la société française et aux Français non musulmans. Qu'est-ce qu'elle représente pour les Français musulmans? Est-ce qu'elle est un peu... On parlait de mosquée mère, j'ai hasardé l'expression au début de cette émission. Est-ce qu'elle a un statut particulier, cette grande mosquée de Paris?
Dans le cœur de tous les musulmans de France, la mosquée de Paris a une place particulière. Et aujourd'hui, je dirais même les citoyens arabo-musulmans qui ne pratiquent pas l'islam, mais qui ont, je dirais, une culture musulmane, se sentent extrêmement proches de la mosquée de Paris, puisque l'on voit, à l'occasion d'un certain nombre de célébrations importantes, de fêtes, etc., où il y a des personnes qui viennent avec leurs enfants visiter la mosquée de Paris. C'est quelque part une référence, c'est le référent de l'islam.
Pour nous qui sommes les responsables et je dirais les serviteurs de cette institution, je préfère le mot serviteur, nous servons un symbole très important. Et nous pensons que nous sommes un peu les conservateurs, ceux qui maintiennent intact autant que possible l'idée même des promoteurs de la construction de cette institution en la gardant la plus pure possible. C'est-à-dire, oui, les musulmans ont aimé la France au point de donner leur vie pour la défense du territoire. Vous savez, il y a eu les deux guerres mondiales, mais avant, il y a eu le Mexique. Avant, il y a eu l'Alma,
70,
le
oui.
pont de l'Alma, le zouave du pont de l'Alma, il n'est pas là pour rien. Ensuite, il y a eu la guerre de 70, Sedan, Gravelotte. Allez au musée de Metz et vous verrez les Turcos de l'époque, comme on les appelait, les indigènes de la guerre 14, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, tout cet ensemble, n'est-ce pas, qui a constitué une bonne partie de l'armée française. Il faut aller voir Verdun et le sacrifice des plus de 75 000 morts pour la seule bataille de 1916. Il y a ici des cérémonies militaires deux fois par an, pour le 8 mai 45 et pour le 11 novembre 1918, régulièrement, nous nous réunissons, nous disons, nous rappelons incessamment et d'une manière absolument, je dirais, constante, l'attachement, comme l'a dit, des musulmans à la France, comme l'a dit, l'islam de France n'est pas un islam d'immigration, il n'est pas un islam économique, il n'est pas simplement un islam où les gens viennent par besoin. Il y a quelque chose d'autre, et c'est cette autre chose que nous voulons véritablement le faire sentir.
Pendant tout le cours de cette émission, nous étions accompagnés par quelques auditeurs du Club Europe 1, que je salue. Est-ce qu'il est possible de visiter la Grande Mosquée? Est-ce que vous invitez nos auditeurs à s'y promener?
La mosquée est ouverte, mais vraiment, c'est une maison ouverte. C'est les portes ouvertes à cet échange. C'est un lieu de rencontre, un lieu d'échange. Et nous avons des guides qui traduisent un petit peu, et des imprimés, des livres, des publications, pour dire sans cesse et sans arrêt à quel point nous tenons à ce symbole de lien entre l'islam et la culture française.
Lorsque l'année dernière, par exemple, il y avait les Nuits Blanches de Paris, jusqu'à 5 heures du matin, ici à la mosquée de Paris, il y avait une queue extraordinaire pour que les Parisiens viennent visiter ce lieu de culte. Donc ça prouve, au-delà de la foi musulmane, l'attachement des Parisiens et des Français à cette mosquée.
Merci infiniment de votre accueil, monsieur le recteur. Et je rappelle à tous les auditeurs qui ne pourraient pas venir ici, dans le 5e arrondissement de Paris, visiter la Grande Mosquée, que dès cet après-midi, sur le site internet d'Europe 1, ils auront les images de notre belle promenade en votre compagnie. Merci beaucoup.
Merci.
Bonjour Elena.
Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est bien, mais bien manger aussi, c'est mieux. Et ça tombe bien parce que en pleine période de carême, justement, on reçoit aujourd'hui que des artistes du goût, des artisans du goût. Et vous allez voir que la frontière est ténue entre l'artisan et l'artiste. En tous les cas, on se régale sur Europe 1 avec les experts. Et puis, si vous avez des questions, si vous êtes vous-même un artisan du goût, n'hésitez pas à nous appeler au 3921, c'est 34 centimes la minute, ou au témoignage sur europe1.fr, Julia.
Merci Elena, à demain Julia.
Avec grand plaisir, à demain Franck.
Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre.
Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun.
Avec en cadeau un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion.